France Musique. Les grands entretiens, Arnaud Merlin, France Musique.
Je suis Pascal du Sapin, né le 29 mai 1955 à Nancy. Je suis compositeur de musique.
Pascal du Sapin, on est dans votre atelier aujourd'hui dans le 9e arrondissement, dans le quartier Saint-Georges, un quartier marqué par la présence des artistes au 19e siècle, les musiciens mais aussi les peintres. Il y a beaucoup d'images ici, il y a de très belles photographies en noir et blanc. Vous ne voyez pas en couleur, vous dites souvent.
Ah non, moi je vois rien en couleur. Ouais.
La photo, c'est quelque chose qui vous vient aussi de votre père, qui vous a transmis ça, votre frère et vous.
Oui, mon père était très bon photographe. Enfin, donc quand il était étudiant en médecine, il a même un peu gagné sa vie avec ça, il me racontait. Lui, il nous avait... j'essaie de trouver le mot approprié. Emmerdé, voilà, c'est ça. C'est beaucoup emmerdé pour nous apprendre la photo vraiment mécanique. Donc il avait son petit Kodak, la Retina, et sans cellules, enfin, il fallait... tu disais, là, tu ouvres à combien, à quelle vitesse t'es, là, tu ouvres à 5, 6, mais non, espèce d'imbécile, faut être bête à 8, sinon t'auras pas de champ derrière, enfin, etc. Et tout ça m'a beaucoup plu, à tel point que quand j'ai 17 ans, mais 17, 18 ans, la musique étant un tel désastre, j'ai pensé, entre autres choses, devenir photographe. Enfin, en tout cas, me lancer là-dedans. Alors après, bon, la musique, c'est en ayant décidé un peu par hasard. La photo ne m'a jamais quitté. Pour revenir très fort au début des années 90, mais la photographie est extrêmement importante pour moi. C'est vraiment quelque chose que je pratique avec beaucoup de sérieux et d'amour.
Dans votre bureau, juste à côté de votre table de travail, il y a une photo d'Igor Stravinsky, une célèbre photo d'ailleurs, et puis une photo de Samuel Beckett, et puis pas très loin, une photo d'Edgar Varèse.
Et là, il y a Alban Berg, là.
Et Alban Berg, derrière vous.
Une photo très ancienne, très belle, très rare. Oui, ce sont un peu mes... c'est là pour me culpabiliser, tout ça.
Vous les regardez pas trop?
Je les regarde, je vis avec depuis maintenant longtemps. Photo de Stravinsky qui est très fameuse, qui est une vraie. J'ai l'impression qu'il me surveille un petit peu, voyez.
C'est pas une reproduction.
Ah non, c'est pas une reproduction, ça c'est une vraie photo, ça. Et Beckett, c'est mon aigle préféré, quoi. C'est ce visage extraordinaire et cette. Je suis un fou de Beckett, moi. Je trouve que c'est l'artiste pour moi. Enfin, j'aime pas le mot, mais il y a une pureté dans sa ligne, enfin, cette courbe qui trace comme ça, cette ascèse totale, enfin, cette folie. Beckett, c'est un personnage très fascinant, parce qu'il commence dans une... C'est les premiers livres de Beckett, enfin, ce sont des choses véritablement touffu. Enfin, ce sont des jungles verbales post-Joycean, si on peut dire. Mais et il termine avec trois mots, quoi. Enfin, c'est très très beau. J'ai ici même dans la bibliothèque, vous voyez, dans le côté droit, il y a tout un côté édition originale parce que je suis très bibliophile. Hein. Et j'ai des trésors de livres là, notamment de Beckett, quoi, des toutes premières éditions, éditions originales, des choses extrêmement rares. Et j'aime être accompagné de ça depuis toujours. Et ça me protège et ça me calme beaucoup. Mais cet environnement est culpabilisant quand même un peu.
Il n'y a pas de piano.
Non, il n'y a pas de piano. Non.
Surtout pas.
Non. Non, ça le piano, non.
Pascal du Sapin, votre imaginaire se nourrit aussi des dessins que vous produisez en marge ou à côté des partitions.
Oui, les dessins, alors ça c'est ce que j'appelle des pensoirs, ça me permet de libérer mon écriture. Alors c'est une écriture presque automatique comme ça, qui réutilise au fond le solfège traditionnel tout en le décontextualisant, donc on perd l'origine complètement. Et ça, ça a donné lieu à cette installation que j'appelle Mille Plateaux, donc la bien nommée.
Puisque c'est un titre de Deleuze.
De Deleuze, ouais, et qui est une installation très particulière qu'on a fait quelques fois, qui est une sorte de buisson comme ça immersif de dessins mouvants, un peu difficile à décrire à la radio, mais qui est en même temps enserré dans une sculpture de vent. Parce que j'aime beaucoup le vent, j'aime beaucoup le son du vent.
Vous dites que vous êtes un musicien de table, un écrivain de musique.
Oui, écrire, et c'est vraiment la chose que j'aime faire. Enfin, je n'aime que ça, en fait, véritablement. Répéter, être en studio, tout ça, j'aime bien, mais ça me fatigue beaucoup, en fait. Travailler, écrire, je peux rester 12 heures devant cette table, où je n'écrivais pas à écrire 12 heures d'affilée, mais la relation avec la page, le papier, tout ça sont des choses qui sont précisément recomposante, quoi, pour moi, toujours. C'est violent, quelquefois, parce qu'il peut y avoir une grande violence, parce que je vis très fort ce que j'écris, donc il est pas détaché de moi. Et pour l'écrire, je l'écris de façon très contraignante, c'est à la règle, à l'encre directement. Donc le moindre repentir, c'est tout un bazar de typex ou de découpe avec des cutters.
Ou vous recommencez la page.
Oui, ou je recommence la page. Mais, mes manuscrits sont maintenant tellement soignés que parfois on croit pas que c'est mon écriture. Enfin, c'est assez drôle, mais si vous voulez, c'est vraiment un travail d'écriture, oui, d'écrivain de musique, parce que écrire la musique pour moi c'est assez c'est facile. Enfin, je veux dire que c'est pas la question que je me pose, c'est pas là où il y a la difficulté. Pour moi, être sur le papier, prêt à entendre, et c'est aussi pour ça que je reste totalement attaché à la photographie argentique qui prévisualise, qui prévoit ce qu'il y a. Étant entendu que j'ai rien contre le numérique, bien sûr, mais j'aime faire une chose et savoir que sa naissance va intervenir bien plus tard, au fond, et de créer cette distance. L'écriture de la musique comme ça, à table, me donne de la paix, et puis en même temps, les moyens du contrôle, je dis ça entre guillemets, mais parce qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, mais j'aime ça profondément. Enfin, alors ça c'est naturel, c'est pas si facile que ça, mais enfin c'est naturel, quoi.
composer, c'est très long et c'est très, très lent.
Ah oui, c'est même très, très, très long. Ouais. Oui, alors c'est ça, les gens qui s'étonnent, parce que on est de moins en moins à écrire comme ça à la table, avec les ordinateurs, tout ça. Les gens, quelquefois, peuvent s'étonner, mais comment vous faites ça? Enfin, c'est drôle. Ouais. Mais il y a tellement de trucs d'un coup, là. J'ai dit, mais c'est très lent. J'ai le temps de voir arriver les choses. Quelquefois, pour écrire quelques secondes de musique, ça me prend 15 jours. Moi, je suis pas doué, moi. Vous voyez? Il y a des compositeurs qui, c'est pas une question de valeur, il y a des gens, ils peuvent faire, mon ami Wolfgang Grieb, moi je mets 2 ans pour faire une chose, lui il met 1 mois et demi, deux quoi. Il est capable, une pièce d'orchestre, moi je mets 1 an, lui il va mettre 3 semaines quoi. Mais Schoenberg était comme ça. C'est un talent très particulier. Moi j'ai pas ce talent, j'ai besoin de temps, beaucoup. Et la principale fonction que j'ai quand je travaille, c'est de rien faire pour pré-entendre ce que je vais faire. Donc j'ai des phases de c'est comme une méditation et puis des phases d'extrême activité comme ça. Je passe de l'un à l'autre. Mais pour moi, c'est très très naturel. Ouais.
Dans cet atelier, vous chantez tout seul pour vous solfiez à voix haute, ronronnez.
Oui. Alors parce que c'est faut que ça passe par le corps, par le vivant, quoi. Alors je chantonne moi-même, je mime les choses, je bats la mesure tout le temps. J'essaye de que ce soit très physique et très très naturel. Par exemple, j'ai maintenant une musique où il y a beaucoup de changements de mesure comme ça. Alors quelquefois ça, j'étais récemment à Londres là, avec le London Philharmonic et il y avait un chef d'orchestre très très bon, mais vraiment grand niveau international. Était un peu paniqué par, mais je lui dis mais non regardez c'est comme si vous rebondissiez sur des vagues inégales comme ça et je lui ai fait pas aussi bien que lui-même le fait d'ailleurs mais j'ai fait voyez c'est juste comme un chaos comme ça il faut et tout de suite il dit ah oui mais oui et puis tout d'un coup il a trouvé ça très facile parce que c'est physique parce que c'est comme un mouvement c'est comme un mouvement de corps.
Quand vous voyez un jeune compositeur vous lui demandez de battre le rythme sur le coin de la table.
Ah oui, ça c'est un de mes trucs favoris. Ouais. Quand je vois des rythmes impossibles, des rythmes qui sont purement spéculatifs, quoi. Je dis, attendez, moi je sais pas le faire, faites-le moi parce que je sais pas. Et 9 fois sur 10, ils savent pas le faire non plus. Donc je leur conseille d'écrire que ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes et contrôler eux-mêmes.
Les grands entretiens de Pascal Dussapin, France Musique.
40 ans après, comment est-ce que vous entendez Xenakis qui disait « L'expression vient après, ce qui compte, ce sont les formes. »
Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. J'adore Xenakis, je comme mon père, enfin, je veux dire. Mais c'était l'époque qui disait ça. Varèse aussi disait des choses comme ça. Ce sont les formes. Comme si on pouvait diviser la question de l'expression et des formes. Non, c'est toujours l'histoire de la tête et du ventre, comme ces imbéciles qui vous disent, mais non, moi j'écris pas avec ma tête, j'écris, et puis ils se tapent sur le ventre, en général, comme des buveurs de bière. Je dis, mais non, je fais aucune différence, moi, entre la tête et le corps. Enfin, d'abord, le fait même d'établir une différence, c'est déjà une aporie totale. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, le corps, il est fait de sens, d'affection. Il est fait d'intuition et de rationalisation. Et encore que, c'était l'époque qui était comme ça. Voilà. Peut-être il avait besoin que Xenakis de défendre, disons, une surface des choses. Quoi.
étiez toujours en vacances à Rombach.
Oui, j'y suis allé il y a quelques semaines. Ouais.
Vous avez écrit un trio qui est dédié à la mémoire d'André Bourgeois-Chief.
Ouais, oui. Bah, le trio Rombach, c'est parce que j'allais dans cet endroit, dans les Vosges, et puis et j'ai associé ce lieu. Alors c'est drôle parce qu'il y a 20 ans, on me disait toujours Rombach, qu'est-ce que ça veut dire. Et maintenant, plus personne ne me demande. C'est devenu, dans ma petite histoire, c'est devenu. J'ai remarqué que personne ne m'interroge jamais sur ce trio qui est beaucoup joué. Enfin, voilà, comme quoi il est devenu peut-être quelque chose.
C'est pas la musique des Vosges, il y a plutôt.
Ah, c'est pas la musique des Vosges.
C'est plutôt une influence un petit peu des musiques des Balkans.
Oui, c'était parce que je tenais à rendre hommage à André Bourgeois-Chief. Ouais. En fait, c'était ma première pièce dans laquelle figurait un piano que j'avais éliminé pendant. Donc, quand je fais le trio Rombach, j'ai un peu plus de 40 ans. Et j'ai fait une chose que j'ai beaucoup aimé faire, c'est que. J'ai été voir Bourgeois-Chief, comme un jeune compositeur, je lui dis, écoute, je voudrais que tu regardes la partition, mais alors, c'est comme si j'avais 19 ans, quoi. Alors, il a adoré faire ça, et il m'a donné des conseils de piano sur la pédale, des trucs comme ça, que j'ai notés, et puis certains conseils que j'ai pas du tout suivis, et qui étaient d'ailleurs magnifiques, parce que j'ai compris que c'était une époque aussi qui parlait à travers lui. À un moment, j'avais fait une espèce de décélérando en triolet, comme ça. Il me dit, mais non, enfin, tu peux pas faire un geste historique comme ça, quoi. J'ai dit, bah si, je l'ai fait. Je l'ai gardé, voilà. Mais bon, je l'ai dit avec beaucoup d'amour, parce que j'adorais cet homme. Et alors, j'avais tenu, sachant ça, je savais que je voulais lui dédier, et ça rejoint un peu votre question sur les chants populaires, en tout cas les mélodies d'enfance, c'est que j'ai inventé des fausses musiques des Balkans, il n'y a pas de citation du tout, qui servent de nerfs un peu comme ça, qui innervent la pièce à certains endroits.
Un folklore imaginaire.
Oui, un folklore imaginaire. Mais ça, j'ai fait beaucoup. La pièce Ipso pour clarinette aussi, elle a l'air de venir de la Mitteleuropa. Enfin, dans certains aspects de ses formes, il y a d'autres pièces comme ça.
La clarinette que vous n'avez pas jouée.
Que je n'ai pas jouée, mais... J'aime pas tellement le passé, en fait. J'ai tendance à réagir de façon assez agressive avec les questions antérieures, quoi.
En même temps, vous dites que vous êtes en paix avec vous-même.
Oui. Oui, je suis en paix sur certains aspects de moi-même, de ma biographie privée. Enfin, la question de la maladie aussi, par exemple. Par exemple, je peux raconter une chose. Quand mon père est décédé en 2001,
et l'année... C'était au moment de Perella.
Oui, oui. 2002, pardon. Et il m'avait dit, un an auparavant, il m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que j'avais une relation aussi... j'avais eu une relation avec lui extrêmement conflictuelle, évidemment. Et puis en même temps, admirative, comme ça. Enfin, il m'avait dit, tu sais, j'en ai marre de tes interviews, là. Pff, tu dis des trucs. Toujours la même chose. Il m'engueule, quoi. Et je dis, ah bon? Tu dis toujours que quand t'étais jeune, t'étais mauvais. Alors il me disait, c'est pas vrai. Il faut que tu dises la vérité. Alors je dis, mais la vérité, mais qu'est-ce que je veux dire comme vérité? Il me dit, ben, la vérité, c'est que quand t'avais 12 ans, je pensais que tu serais mort à 16. Alors tu leur fous ça dans la gueule. Voilà. Il m'avait dit ça, vraiment, comme ça. Avec plus d'intention encore. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire simplement que... Au fond, je découvrais ce qu'avait été sa propre peur, son inquiétude, ce qui n'avait pas été clair pour moi. Et c'est comme si ce presque empêchement qu'il avait eu soin de me délivrer à m'interdire la musique, trouvait une explication dans une résolution dans cette peur de la mort. Parce que cette maladie, moi j'avais des complications épileptoïdes, mais enfin qui venaient aussi de questions de cerveau, enfin tout ça c'est fini, hein, tout ça je vais très bien, mais c'était aussi un très grand mystère médical. On a jamais su vraiment ce que j'ai eu. Encore aujourd'hui, ça m'est arrivé il y a quelques années de rencontrer un très grand professeur qui m'a donné des explications, disons, un peu plus récentes, quoi, sur cette maladie. Mais au fond, cette maladie-là, quoi, crée une espèce de trou noir qui... dans lequel tous les monstres de l'imagination peuvent s'engouffrer, quoi. Donc, étant père moi-même, tout d'un coup, je comprenais ce que pouvait être la peur de mon propre père, quoi, des choses comme ça. Et puis, à vrai dire, tout ça est fini. Enfin, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas de maladie grave. Ça peut être bien pire encore, hein. Donc, mais c'était l'idée que la vérité était là, quoi. C'est ça que, dans cette peur de la mort.
Sangue nelle vene.
Mais ça a eu des implications, hein. Ça a eu beaucoup d'implications techniques, par exemple. Par exemple, dans ma musique, il y a beaucoup de choses avec le souffle, quelquefois comme ça, des choses comme ça. Et je sais que j'ai fait le, vous voyez, le serment dans chacune de mes pièces chorales, il y a un souffle comme ça. Dans Macbeth, il y en a un. Il y en aura toujours. Chaque fois, j'en mettrai un. Et je l'ai utilisé dans To Be Sung, il y a beaucoup de halètements comme ça. Dans Passion, il y a même une mise en scène de ça, parce que il y a même un système, puisque j'ai fait faire des capteurs d'émotions sur des micros sur le ventre pour capter l'énergie électrique avant le souffle. Donc, Barbara Hannigan fait des sortes de soupirs, comme ça, quelquefois, qui sont écrits très précisément et spatialisés par un système électronique et tout. Et en fait, tout ça a une origine très simple. Ça venait des électroencéphalogrammes qu'on me faisait à répétition, où on vous demande de faire comme ça, des halètements, des souffles longs, des souffles courts. Et ça a créé chez moi presque un élément de style, parce que j'ai ce souvenir qui est vraiment dans ma chair, quoi. C'est plus tard, des années après, que tout d'un coup ce souvenir. Et je pense que ça a produit une mélancolie très particulière, faite sur la question de la plainte. Par exemple, dans ma musique, il y a souvent des plaintes comme ça. Et c'est des choses que j'ai entendues, ça. Et qui revivent aujourd'hui. Voilà.
Thank you. un extrait de la Mélancolia Operatorio de Pascal Dussapin par l'Orchestre National de Lyon, dirigé par David Robertson. Merci à Yves Lehorse pour la prise de son, Flora Sternadel pour la documentation, Valérie Davalard pour le mixage et à Marie Groux pour la réalisation. Vous pouvez trouver les références des extraits musicaux sur le site de l'émission que vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de grands entretiens.
À réécouter sur francemusique.fr.